Suivez Priorité Santé avec le groupe Sounou qui assure ses clients, partenaires et employés de tout son soutien face à cette pandémie. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci à celles et ceux qui accompagnent et prennent en charge, infirmières, médecins, aides-soignants, biologistes. Merci aux employés des commerces, des entreprises de nettoyage, des transports. Et bravo pour l'énergie mobilisée dans cette période de crise sanitaire. Notre quotidien bouleversé par à la fois le changement des habitudes et par les incertitudes nombreuses, craintes et questions d'une opinion publique confinée qui espère et parfois s'impatiente. Difficile d'accepter la perte d'un proche du jour au lendemain, l'éloignement d'une mère, d'un oncle hospitalisé à qui on ne peut plus rendre visite. Difficile d'accepter des questions sans réponse, pénible aussi d'attendre lorsque les journées sont rythmées par l'annonce du nombre des hospitalisations et des décès égrenés chaque soir par les autorités sanitaires. Difficile encore d'entendre que l'on n'a pas de traitement, de trouver un vaccin. Cela pourrait prendre eh bien, peut-être un an, peut-être plus. Et lorsque les réponses sont compliquées, tentation, grande tentation d'aller vers les solutions les plus simples, même si ce ne sont pas toujours les bonnes. Difficile de faire correspondre le temps de la recherche à celui des médias, des réseaux sociaux, des certitudes sans preuve et des spécialistes autoproclamés. Alors aujourd'hui, dans Priorité Santé, on vous propose de faire un nouveau point, ce que l'on sait, ce que l'on cherche et ce que l'on espère découvrir. Essayez de répondre au mieux à vos questions. Priorité Santé, vous le savez, RFI, avec vous, malgré le confinement, une partie de l'équipe à la maison et en régie dans les studios de RFI. Steven Elsley et Raphaël Lazizi, avec qui je communique par écran interposé. Grand bonjour à l'équipe technique. Chercheurs, médecins avec nous aujourd'hui, encore, pour vous éclairer. L'expérience clinique, prise en charge, observation, mais aussi recherche. Avec vous, professeur Karine Lacombe, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes chef de service des maladies infectieuses et tropicales au sein de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Et nous avons le plaisir de vous retrouver. Professeur François Dabis, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes épidémiologiste spécialiste de santé publique et vous dirigez l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, l'ANRS. On retrouvera tout à l'heure en ligne Christophe Denfert, directeur scientifique de l'Institut Pasteur à Paris. Et en fin d'émission, eh bien, notre moment pour souffler, séance de relaxation avec le docteur Adrien Chaboch, médecin psychothérapeute, notre rendez-vous du vendredi pendant tout ce confinement.
Priorité Santé sur RFI.
Je le disais à l'instant, professeur François Dabis, plaisir de vous retrouver, car on a souvent l'occasion de se croiser, d'échanger, notamment dans le cadre des rendez-vous consacrés à une autre pandémie, le VIH-Sida, que ce soit à l'occasion d'ICASA, une conférence sur le sida en Afrique, ou lors de la dernière réunion de reconstitution du Fonds mondial, c'était à Lyon, VIH dans les années 80, également un virus émergent, une pandémie. 21e siècle, nouveau virus, nouvelle bataille. Beaucoup de médecins, de spécialistes le reconnaissent. Il faut de l'humilité. On n'a pas vu forcément venir la catastrophe. Est-ce que c'est aussi votre cas, professeur François Dabis ?
Écoutez, je crois qu'on est tous très humbles, effectivement, dans cette situation, parce que c'est arrivé extrêmement vite. Vous faites le parallèle avec ce qui s'est passé dans les années 80. Les années 80, la montée de la vague a été beaucoup plus lente, mais elle était tout aussi dramatique. Là, il faut se rappeler que l'alerte n'a été vraiment lancée que dans les tout derniers jours du mois de décembre, et nous n'avons commencé à comprendre les choses que début janvier. Donc, c'est incroyablement rapide, et oui, il faut être très humble dans ce qui nous arrive.
En effet, moi, je me souviens, la première émission de Priorité Santé sur ce coronavirus, c'était le 3 février. Et à ce moment-là, on parlait uniquement de l'épidémie dans la région de Wuhan. Alors, bien sûr, sans vouloir établir de comparaison avec d'autres maladies, voire d'autres pandémies qu'a affronté l'humanité au siècle dernier, qu'est-ce que vous considérez aujourd'hui comme complètement inédit, inattendu, complexe, professeur François Dabis, aujourd'hui, face à ce que nous vivons ?
Alors, la complexité vient de la rapidité avec laquelle l'épidémie s'est propagée. La difficulté a bien sûr été que les mesures de contrôle les plus simples, le confinement, la distanciation sociale, marche bien sûr, mais ça va plus vite que nous, hein, bien sûr. Et puis, le fait que nous n'avons bien sûr aujourd'hui ni traitement, ni vaccin immédiatement disponible. Et là, le défi de la recherche, c'est d'accélérer les choses autant qu'elle le peut pour arriver à quelques solutions. Et ça, c'est un défi que nous n'avons pas du tout, auquel on ne pouvait pas être préparé du jour au lendemain, bien évidemment.
Alors, on va vous retrouver dans quelques minutes, professeur Dabis, pour évoquer l'appel à projet lancé par l'Agence nationale de recherche, l'ANRS, pour les pays du Sud. On va bien comprendre qu'il y a énormément de terrains sur lesquels la recherche travaille, la connaissance du virus, les outils diagnostiques, le contrôle de l'épidémie, également voir comment les patients, les malades se comportent, cette fameuse prise en charge. Je m'adresse donc à la clinicienne, professeur Karine Lacombe. Les médecins continuent d'apprendre, de comprendre cette nouvelle maladie en observant l'évolution de l'état des patients. Par exemple, est-ce que vous continuez avec les patients hospitalisés à observer de nouvelles choses en termes, par exemple, de complications sur les lésions organiques ?
Ah oui, tout à fait. Alors, vous savez qu'initialement, l'alerte qui avait été donnée, c'est sur les pneumopathies aiguës sévères, qui sont ce qui nous est arrivé de plus fréquent en termes de guillotine. Et puis, on s'est aperçu petit à petit avec l'Italie qui a été touchée une dizaine de jours, 10-15 jours avant nous, que finalement, il y avait d'autres complications qui s'installaient, et en particulier un état d'hypercoagulation avec des risques importants d'accidents vasculaires cérébraux et d'embolies pulmonaires. Et puis, quand l'épidémie est arrivée en France, on a vu émerger d'autres complications ou d'autres manifestations cliniques de l'infection, en particulier la perte du goût et la perte de l'odeur, qui n'avaient pas été vraiment décrites auparavant. Et puis, on s'est également aperçu que beaucoup de patients, en particulier âgés, qui arrivait avec de la diarrhée et de la fièvre, sans manifestation pulmonaire, était en fait porteur du Covid, avec un tropisme sur le système digestif que l'on n'avait pas vu avant. Et puis un peu plus récemment, on a vu que certains patients développaient, dans la phase très précoce, des manifestations dermatologiques à type d'éruption, de livédo, qui est une couleur un peu violette de la peau, qui peut être assez fugace. Donc vraiment beaucoup de signes cliniques bien différents de ce que l'on avait eu comme information au tout début de l'épidémie. Et puis bien sûr, ce que l'on commence maintenant à voir, maintenant qu'on prend du recul, c'est les conséquences à plus long terme, avec des patients qui ont de nouveau des manifestations inflammatoires quelques semaines après avoir potentiellement guéri de l'infection. Donc vraiment, c'est une infection qui nous interroge beaucoup dans nos connaissances.
Alors, en même temps, il y a ce questionnement qui est toujours là. On est en pleine découverte. Et en même temps, une pression qui n'est pas toujours facile à vivre par des praticiens hospitaliers qui ne sont pas rodés à la pression médiatique, et grand bien leur fasse d'ailleurs à ce sujet. Chacune suit derrière son écran les travaux des chercheurs. Chacun se pose des questions. Avec donc cette pression comme celle de l'un de nos auditeurs, il est à Pointe-Noire au Congo, c'est Rodévi, Congo-Brazza, et il est pressé, on le comprend, et il vous demande « J'aimerais savoir si on peut espérer avoir un traitement contre ce virus d'ici le mois de mai, très concret, après tous les essais cliniques. » Ce que demande en fait Rodévi, c'est « On entend, il y a de multiples essais qui sont lancés sur de très nombreuses pistes, on va avoir des résultats quand, professeur Lacombe ?»
Eh bien, écoutez, effectivement, il y a de nombreux essais thérapeutiques qui ont été lancés un peu partout. Il y a eu quelques essais en Chine, très peu d'essais randomisés, mais plutôt ce que l'on appelle des cohortes thérapeutiques qui ont montré des résultats assez contradictoires sur l'efficacité ou l'inefficacité des antiviraux, que ce soit par exemple l'opinavir, ritonavir ou encore l'hydroxychloroquine. Donc des résultats qui ne permettaient pas de conclure. À partir du moment où on a commencé à avoir des patients infectés en Europe, on a monté des projets, des gros essais thérapeutiques qui sont encore en cours d'inclusion, parce que quand finalement l'effet du traitement n'est pas absolument majeur, on est obligé d'inclure beaucoup de patients pour montrer que ça fait mieux que rien du tout.
Donc, comme l'essai Discovery, par exemple.
Exactement, comme l'essai Discovery qui doit inclure plus de 1000 patients pour espérer montrer une différence entre les groupes de traitement qui sont disponibles dans Discovery. Donc, je vous rappelle, principalement des antiviraux comme le remdesivir, qui est un médicament développé contre Ebola, mais également le lopinavir, ritonavir. Il y a aussi l'hydroxychloroquine, il y a l'interféron, bêta, qui est un immunomodulateur, et puis il y a le bras de comparaison sans traitement particulier. Il y a d'autres essais en cours avec l'hydroxychloroquine par exemple, il y a également des essais avec des immunomodulateurs, donc qui sont anti-inflammatoires pour une phase un petit peu plus avancée de la maladie, et puis il y a l'essai de transfert d'immunité passive avec de la transfusion de plasma de patients guéris vers des patients malades. Donc tous ces essais-là, eh bien, il faut avoir le temps d'inclure les patients, d'avoir les résultats en termes de suivi en particulier. Et donc, on va avoir des résultats fin avril, début mai.
On va vous retrouver, hein, professeur Lacombe. Nous venons de joindre Christophe Denfert de l'Institut Pasteur. Bonjour, monsieur Denfert.
Bonjour.
On parlait tout à l'heure justement des champs très multiples de cette recherche et on voit bien qu'au sein des équipes de Pasteur, il y a justement cette dimension plurielle et multiple. On peut dire qu'aujourd'hui, on est aussi bien en train de chercher dans vos laboratoires, dans vos services, du côté justement des traitements, des réactions, du suivi des patients, mais aussi de la vaccination. Et globalement, ce qui est essentiel en période de pandémie, du suivi de la tendance de l'épidémie.
Oui, tout à fait. Donc, nos équipes ont mis au point un certain nombre de tests, ce qu'on appelle des tests de sérologie, qui permettent de détecter chez tout individu la présence d'anticorps qui sont dirigés contre le coronavirus. Et donc ces tests vont avoir un intérêt significatif dans l'étude de la séroprévalence au niveau des populations et donc dans la définition des approches de déconfinement. Il est clair que en fonction du niveau de propagation du virus dans la population, les approches de déconfinement vont varier, puisque si les niveaux sont faibles, on ne pourra pas compter en particulier sur l'immunité collective qui sera importante pour se débarrasser à terme de cette épidémie.
J'ai bien entendu, quand vous êtes exprimé, vous avez dit « ces tests vont, Christophe Denfert ». Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, ces tests ne sont pas immédiatement disponibles. Ils le seront quand ?
Alors, il y a deux aspects. Il y a des tests qui ont été développés à l'Institut Pasteur et qui sont utilisés à des fins de recherche. Et ces tests sont aujourd'hui en cours d'utilisation sur un certain nombre de collections d'échantillons qui peuvent être soit des collections d'échantillons obtenues à partir de personnes qui ont eu des symptômes de Covid. On a eu des cohortes, par exemple, dans le département de l'Oise qui ont été évaluées avec ces tests. On a aussi accès à des échantillons qui ont été collectés à partir de personnes qui ont fait soit des analyses, soit des dons de sang. Donc ça va permettre, c'est en cours et c'est une activité de recherche qui permet d'avoir des informations sur la séroprévalence en population ou dans des catégories de personnes qui peuvent être intéressantes de regarder. Au-delà de ça, les industriels développent eux aussi ces tests de sérologie. Et donc le rôle de l'Institut Pasteur est d'évaluer ces tests de sérologie au regard des étalons que nous avons développés. Et donc ces tests vont se répandre dans les semaines qui viennent, si tant est qu'ils aient été homologués par les autorités de santé françaises.
Professeur Karine Lacombe, tout à l'heure, vous avez évoqué rapidement l'essai expérimental à base de plasma sanguin. Si je reviens vers vous pour en parler, c'est précisément parce que vous pilotez un essai sur ce type de produit sanguin spécifique. Alors, expliquez-nous la façon, essayez le plus simplement possible, même si ce n'est pas toujours évident, en quoi consiste cet essai ?
Eh bien, en fait, il s'agit d'utiliser le principe du transfert d'immunité passive, c'est-à-dire que quand un patient a développé le Covid, il a développé des anticorps contre le virus. Ces anticorps sont présents dans le plasma et une fois que l'on a guéri, ces anticorps persistent et a priori devraient éviter que l'on puisse se réinfecter. C'est ce que l'on développe, par exemple, quand on est en contact avec plein d'autres infections virales qui sont immunisantes, comme la rougeole. Et le fait de prendre des anticorps neutralisants, donc qui sont capables de neutraliser le virus, eh bien, ça peut permettre à des personnes malades qui n'ont pas encore développé des anticorps d'avoir ces anticorps à disposition pour que ces anticorps puissent combattre le virus. On a montré dans certaines maladies que ça marchait très bien et dans d'autres que ça ne marchait pas. Par exemple, là où ça marche très bien, c'est la rougeole. On a aussi montré que ça marchait bien pour le SARS-CoV. Et puis dans le modèle animal de SARS-CoV-2, en particulier chez le chimpanzé, on a montré que le transfert d'immunité passive permettait de contrôler l'infection à SARS-CoV-2. Et on a des signaux intéressants qui nous viennent de Chine, où il y a une quinzaine de patients dans deux essais différents qui ont été traités avec du plasma de convalescent, avec un très bon devenir clinique des patients transfusés. Et puis il y a également des cas, des séries de cas, là il y a une série de cas de trois patients qui viennent des États-Unis et qui ont été traités et chez qui ça a bien marché.
Alors j'ai une série de questions, excusez-moi Karine Lacombe, par rapport à cet essai, j'ai une série de questions très concrètes, hein. Combien de patients aujourd'hui dans votre essai, surtout à quel stade sont-ils de la maladie, est-ce qu'ils ont, ils sont déjà dans la phase inflammatoire?
Alors ça, c'est une très bonne question parce que effectivement, les résultats que l'on a parcellaires sur l'utilisation du plasma, ce sont des résultats obtenus chez des patients qui étaient déjà en réanimation, dans une phase très avancée de la maladie. Nous, on a décidé dans l'essai Coriplasme de se placer un peu plus en amont, c'est-à-dire chez des personnes qui ont déjà des signes d'inflammation importants, donc qui arrivent à l'hôpital avec une dyspnée, des difficultés respiratoires, mais qui ne sont pas encore en réanimation. Parce que notre objectif, c'est d'éviter justement le passage en réanimation. Par exemple, parce que dans des pays, ça peut être le cas de la majorité des pays du Sud, il n'y a pas assez de place en réanimation pour accueillir tous les patients qui seraient passés dans cette phase inflammatoire qui requiert une ventilation assistée. Donc on a décidé de se placer bien en amont, donc chez des patients hospitalisés qui ont besoin d'oxygène ou pas, mais qui sont à risque de s'aggraver. On a volontairement décidé de ne pas donner ce type de traitement à des patients qui sont en ambulatoire, c'est-à-dire en dehors de l'hôpital, parce qu'on sait que la majorité d'entre eux guérissent spontanément en 5 à 6 jours.
Et c'est bien ce qu'on répète à chaque fois aux auditeurs, hein, parce que beaucoup d'entre eux s'inquiètent pour savoir si la maladie est systématiquement mortelle. C'est vrai qu'au Sud, on a eu des épidémies, notamment le souvenir est encore très très présent de la maladie à virus Ebola avec une létalité très importante. On en est très 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 loin et on le souligne. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, nous donnerons la parole à une émission spéciale. Nous donnerons la parole à des patients guéris. C'est important aussi d'entendre leur voix. Tout à l'heure, vous parliez, professeur Karine Lacombe, on va donner dans quelques instants la parole au professeur Dabis. Vous parliez de tous ces essais. Est-ce qu'il y a un partage? Est-ce qu'il y a une mise en commun? Comment est-ce que vous tenez au courant, vous, les chercheurs et les cliniciens?
Ah oui, absolument. On a un grand réseau de partage des essais. Alors là, je parle pour les essais qui ont lieu en France. Ce sont des essais multicentriques dans lesquels participent la majorité des grands services hospitaliers. C'est également le cas pour des essais de prévention qui ont lieu cette fois-ci en ville, hein, en dehors de l'hôpital. Donc il y a un grand partage d'informations. Et puis, par exemple, si vous parliez tout à l'heure de l'essai Discovery, il faut savoir que c'est un essai européen. Mais évidemment, pour pouvoir participer à ces essais, il faut avoir assez de patients malades. Et c'est pour ça que pour l'instant, dans les pays du Sud, en particulier en Afrique subsaharienne, il y a des initiatives thérapeutiques qui sont lancées, mais tant qu'il n'y a pas de malades, beaucoup de malades, eh bien, c'est difficile de monter des essais. Mais évidemment, il ne faut pas souhaiter qu'il y en ait, justement. Mais en revanche, qu'il y ait un partage de connaissances entre les pays qui ont pu mener ces essais et qui ont montré l'efficacité de certains traitements et puis les pays qui, pour l'instant, n'ont pas assez de malades, de façon à ce que les quelques malades présents puissent bénéficier des traitements.
En tout cas, on le sait, on a déjà eu des retours sur cela. Il y a des options thérapeutiques qui ont été prises, hein, que ce soit au Sénégal ou au Mali, avec l'association notamment hydroxychloroquine et azithromycine, hein, repris en fait de ce qui avait été fait par les équipes du professeur Raoult à Marseille. On en a déjà parlé longuement. On sait qu'il y a aussi, avec les mêmes molécules, un nouvel essai au CHU de Bordeaux, bithérapie, qui est aussi testée en prévention auprès des soignants en Île-de-France. Alors tout à l'heure, on parlait de l'impatience de l'opinion par rapport aux résultats des essais. Et on la retrouve chez Kéla, cette impatience, un auditeur qui nous écoute à N'Djamena au Tchad et qui se demande pourquoi cette recherche clinique prend-elle autant de temps. Professeur François Dabis, qui est là, a une question, j'imagine, sur laquelle vous pouvez l'éclairer. Il demande en effet s'il n'est pas possible que chaque pays, peut-être le sien, la Guinée, fasse ses propres recherches sans attendre notamment les pays du Nord.
Alors écoutez, la recherche doit se mener partout où elle peut se mener, mais elle nécessite des moyens financiers, des moyens humains, une organisation. Donc tout ça, tout le monde ne l'a pas au même niveau. C'est quand même, tout ça prend un petit peu de temps. Karine Lacombe vient de vous l'expliquer, recruter des patients dans un essai, c'est très méticuleux. Il faut bien sûr suivre les patients ou les personnes, le temps nécessaire à mesurer ce que l'on a besoin de mesurer. On n'a pas des mesures instantanées dès qu'on prend un médicament, par exemple, de ce que l'on veut mesurer derrière. Tout ceci prend un temps minimum et soyez vraiment garantis, et vos auditeurs peuvent l'être, que vraiment on essaye de raccourcir tous les temps possibles dans ce qui se fait en matière de recherche actuellement. Et vraiment, on est sur des temps incroyablement courts. Je pense notamment au fait que dans les études cliniques en général, on a beaucoup d'obligations réglementaires et aussi de sécurité à vérifier, et éthique bien évidemment. Et je peux vous dire que tous les comités, toutes les agences qui doivent se prononcer font aujourd'hui des procédures extrêmement accélérées pour permettre aux chercheurs de commencer ces recherches cliniques le plus vite possible. Donc il y a un effort absolument sans précédent dans le raccourcissement des délais, mais il y a des délais qui sont quand même incompressibles.
Oui, il y a eu un paradoxe entre l'envie d'avoir ces découvertes et puis en même temps la sécurisation. On ne peut pas passer à côté de la méthodologie, on n'improvise pas quand on est chercheur. Professeur Dabis, il y a des essais en cours et d'autres qui se préparent avec les spécialistes du Sud qui sont sollicités. Peut-être d'ailleurs que certains des candidats qui vous ont adressé un dossier à la NRS sont en ce moment à l'écoute de Priorité Santé. Expliquez-nous exactement ce qu'il y a derrière votre appel à projet.
Alors écoutez, c'est assez simple. Lorsque, comme on vous l'avait dit, les médias ont commencé à être informés fin janvier, fin février, on se rendait compte que l'épidémie avançait, qu'il fallait réagir, c'était très clair. On a immédiatement lancé la recherche dans les pays les plus affectés, en commençant par la France. Les moyens ont été mis à disposition, les scientifiques français, comme dans d'autres pays, se sont mobilisés, et très peu de temps après, on va dire 15 jours après, on a vu que l'épidémie allait déferler dans d'autres parties du monde, et nos collègues chercheurs de ces pays-là, notamment en Afrique, nous ont dit il faut faire quelque chose. Dans le mouvement initial que nous avions organisé en France, il n'était pas prévu d'aller immédiatement vers d'autres pays. Eh bien, dès la deuxième partie du mois de mars, on a décidé qu'il fallait y aller, et l'agence que je dirige, l'agence de recherche sur le sida et les hépatites virales, est en fait l'agence en France qui a le plus de capacité à se projeter à l'international, parce qu'elle fait ça avec à peu près un tiers de son budget et un tiers de son organisation aujourd'hui. Et donc c'était un consensus dans les ministères et dans les organisations de recherche françaises que mon agence porterait cette initiative d'essayer de faire la recherche dans les pays les plus affectés du Sud et notamment en Afrique. Et donc on a lancé dès le 1er avril un appel d'offres spécial orienté vers la recherche, vers les pays à ressources limitées. Cet appel d'offres, nous venons juste d'en clore la phase de candidature il y a 2 jours à peine, et on est actuellement en phase extrêmement active d'analyse et d'expertise de tous ces dossiers pour pouvoir, au plus tard, dans les tout premiers jours du mois de mai, peut-être les derniers jours du mois d'avril, prendre des décisions pour lancer un nouveau cycle d'essais dans ces pays-là. À nouveau, une rapidité que nous n'avons jamais expérimentée dans le passé.
Alors justement, quelle est la valeur ajoutée d'apporter l'expertise du Sud, une expertise de terrain? Est-ce que ça s'est déjà fait par le passé?
Alors nous, comme je l'ai dit, dans le champ du VIH, des hépatites virales, nous avons l'expérience et l'habitude d'associer des équipes de pays du Sud à des équipes françaises, que les deux fonctionnent en binôme pour faire des propositions de projets qui soient adaptés. Car un certain nombre de solutions que nous préconisons ou sur lesquelles nous arrivons à des conclusions dans des pays comme la France, par exemple, ne sont pas immédiatement transférables dans tous les contextes. Et puis, il y a des spécificités à ces contextes-là pour lesquels d'autres solutions doivent être recherchées. Donc on a vraiment légitimité à aller faire de la recherche dans le Sud, pour le Sud et bien sûr avec les chercheurs du Sud et les communautés du Sud.
Donc vous venez indirectement de répondre à cette question de Sekou qui est à Conakry, qui demande si les pays africains ont été choisis pour des tests. Alors attention, hein, quand on rapproche ces deux termes, tests et africains, on se souvient qu'il y a eu, il y a quelques semaines, des propos que j'ai qualifiés de calamiteux de chercheurs français avec des problèmes d'interprétation sur ce qui avait été dit. Là, si on parle d'essais de recherche clinique et de recherche tout court au Sud, c'est bien par des chercheurs du Sud et pour, bien sûr, tester des choses à l'échelle locale, mais également à l'échelle internationale, professeur Dabis.
Absolument. Deux choses. D'abord, il n'y a pas que la recherche clinique. Comme vous l'avez dit, et certains de vos auditeurs y pensent, on la recherche en prévention, la recherche en sciences humaines et sociales pour comprendre vraiment ce qui se passe, comment les populations réagissent, c'est aussi très important. Et la recherche que je qualifie d'amont, la recherche plus fondamentale, peut-être la recherche sur des pistes vaccinales, il faudra aussi qu'on l'amène. Donc c'est une recherche qui va dans toute la gamme, dans tout le spectre de ce que l'on peut... de ce qu'il faut aller rechercher. Et effectivement, l'exigence de notre appel d'offres, c'est qu'un chercheur parfaitement qualifié d'un laboratoire d'un pays du Sud doit s'associer à un chercheur français pour monter en binôme un projet qu'il nous porte ensemble. Donc il n'y a pas de recherche qu'on envoie du Nord vers le Sud et qui repartirait vers le Nord. Ça n'existe pas, en tout cas, dans l'agence que je dirige, ce n'est pas possible.
Et vous avez votre expérience du VIH qui prouve bien à quel point l'implication communautaire en termes de prévention au Sud, c'est quelque chose d'absolument essentiel. On ne peut pas travailler sans être directement au cœur de la communauté. En tout cas, des chercheurs du Sud sont déjà au travail. Christophe Denfert, hein, l'Institut Pasteur, c'est également un réseau international et réseau, on le sait également, en Afrique subsaharienne.
Oui, tout à fait. Hein. C'est un réseau de 32 instituts qui sont localisés sur tous les continents et en particulier dans les pays du Sud, en Afrique subsaharienne, mais aussi dans le Maghreb et plus largement en Asie du Sud-Est, qui est clairement très exposé à ce virus, ou au moins l'était. Effectivement, il y a un travail collaboratif entre ces différents instituts. Vous savez que l'Institut Pasteur a lancé une campagne d'appel aux dons très tôt au cours du développement de l'épidémie, et nous utilisons ces financements pour développer des programmes de recherche collaboratifs entre les différents instituts pasteurs de notre réseau, qui implique ou pas l'Institut Pasteur de Paris. Et ces projets portent sur le développement de tests diagnostiques qui soient adaptés aux conditions des pays du Sud, au développement de tests de sérologie qui soient aussi adaptés à ces conditions. Et plus largement, des questions autour de l'épidémiologie, du traitement et du vaccin. Donc je crois que ce qui a été présenté pour les actions de la NRS s'applique aussi au réseau des instituts Pasteur. Un travail collaboratif entre les équipes du Nord et du Sud, mais aussi des collaborations entre équipes du Sud. Le test diagnostique qui a été mis en place par notre institut à Hong Kong a été très rapidement diffusé vers les autres équipes d'Asie du Sud-Est, mais plus largement aussi en Afrique.
Alors, vous restez avec nous, on va essayer de répondre à un maximum de questions des auditeurs.
Priorité santé sur RFI.
Et nous continuons de parler de la recherche, toujours en compagnie de nos invités, professeur Karine Lacombe, infectiologue, Christophe Denfert, biologiste, professeur François Dabis, épidémiologiste. On disait tout à l'heure, connaissances qui progressent, qui continuent de progresser avec des points qui nécessitent parfois des petits retours en arrière, hein, des éclaircissements. Alors il y a les questions des auditeurs qui sont nombreuses sur la page Facebook de l'émission. Alors je vais vous les poser aux uns, aux autres. On va essayer de faire des réponses pas trop longues pour essayer de répondre à un maximum de ces questions. Christophe Denfert, question basique mais essentielle, hein, parce que ça permet aussi de lutter contre les rumeurs, les fake news. Question que pose par exemple Innocent, il nous écoute en République démocratique du Congo. Combien de temps le Covid-19 peut-il rester sur les vêtements, sur les textiles, Christophe Denfert ?
Alors bon, c'est je pense assez sujet à débat, mais on parle en fait de 2-3 heures. Il y a suivant les surfaces sur lesquelles le SARS-CoV-2 peut se déposer, la durée de persistance va être plus ou moins importante. Tout ça en fait dépend un petit peu de la température, de l'humidité, de la nature de la surface. Donc on a voilà, je dirais que 2-3 heures et reste le chiffre qui est le plus souvent partagé, mais ça peut être un peu plus important.
2-3 heures ou plus. Résistance du virus également. Question, Christophe Denfert, je m'adresse encore à vous. Sur l'immunité, sur le fait de savoir si lorsque l'on a attrapé le coronavirus, que l'on en a guéri, eh bien, une rechute est-elle possible ? Joseph à Lubumbashi demande, deux personnes atteintes et soignées du Covid-19 au Japon ont ensuite été déclarées positive. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ou est-ce qu'on ne sait pas?
Alors, je me garderai bien de dire si c'est vrai ou c'est faux, mais on entend de plus en plus effectivement de rapports qui indiquent que la guérison n'est pas forcément un signe de non-réinfection. Mmh. Et donc, c'est une des interrogations qui se pose quand maintenant on va essayer de regarder si les personnes ont été exposées, ont développé des anticorps. Est-ce que ces personnes sont protégées? Et cette connaissance va probablement être obtenue dans les semaines qui viennent. On aura une meilleure vision de ce qu'il en est. Je crois que c'est important d'avoir cette information sur effectivement quelle immunité se met en place lorsqu'on a été exposé au virus.
Surtout quand on envisage, même si ce n'est pas du tout pour tout de suite, le déconfinement. Question, professeur Karine Lacombe, je m'adresse à vous. Lubumbashi encore, c'est Willy Claude. Il voudrait savoir s'il est utile de se faire vacciner du BCG une deuxième fois. Il a 50 ans et il se demande, est-ce que c'est utile pour prévenir le coronavirus? Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Eh bien, ce que l'on peut lui répondre, c'est que pour l'instant, on ne sait pas. C'est-à-dire que les seules données que l'on a d'un possible effet protecteur du BCG, ce sont des données observationnelles. C'est-à-dire qu'on a regardé chez des personnes qui avaient été vaccinées contre le BCG versus d'autres qui n'avaient pas été vaccinées, le taux d'infection par le Covid, et puis ceux qui n'avaient pas été vaccinés, dans cette étude observationnelle, il semblerait que ce taux soit plus élevé. Mais vous comprenez que c'est des données observationnelles, c'est-à-dire que les patients n'étaient pas forcément, les participants à cette cohorte observationnelle n'étaient pas forcément comparable. Pourquoi certains ont été vaccinés et pas d'autres? Vous voyez qu'il y a beaucoup de confusion, de biais, ce qu'on appelle des biais, dans l'observation. C'est pour ça qu'il y a des essais en cours où on a pris des personnes qui sont absolument comparables en termes d'âge, de sexe, etc. Et certains sont vaccinés, d'autres pas, et on regarde qui va être infecté par le Covid. Il faut savoir, et là je rebondis sur ce que vous a dit François Davis tout à l'heure, qu'il y a vraiment des spécificités de la recherche sur le Covid-19 dans les pays du Sud. Évidemment en termes de traitement, mais également en termes de développement de la maladie quand on est exposé au virus. Parce qu'on sait que nos amis africains sont exposés beaucoup plus souvent que nous dans les pays européens à des maladies infectieuses. Il y a donc une stimulation permanente du système immunitaire qui fait que peut-être, spontanément, ils vont mieux se défendre contre le SARS-CoV-2 que les citoyens dans les pays du Nord. Et donc, vous voyez, on ne peut pas tout retranscrire ce que l'on a montré dans certains pays, dans d'autres, parce que les contextes sont complètement différents. On ne sait pas non plus comment évolue le virus dans les pays du Sud avec la chaleur, l'humidité, etc. Donc en matière de prévention, ça peut avoir un gros impact.
C'est pour ça que les données sont différentes.
Et les données sont différentes.
En tout cas, ce qu'on comprend, c'est que les auditeurs, où qu'ils soient dans le monde, ils perçoivent à la volée comme ça les informations, parce que ce BCG, c'est bien parce que des chercheurs ou des spécialistes en ont parlé. J'ai d'autres questions, cette fois c'est sur les symptômes, professeur Lacombe. C'est Joe hein, aussi en RDC, beaucoup d'auditeurs congolais aujourd'hui. Il demande si la fièvre, alors ça vous pouvez certainement lui répondre puisque vous avez observé les patients, si la fièvre est continue ou intermittente et au bout de combien de jours, eh bien, elle se déclare.
Alors, en fait, on pense que il y a une phase d'incubation qui est assez courte, probablement de moins d'une semaine et en gros de 4-5 jours. on commence à devenir infectant probablement 1 à 2 jours avant d'avoir des signes cliniques. Et puis ensuite, on développe une fièvre. Alors dans la grosse majorité des cas, cette fièvre, elle est relativement modérée, aux alentours de 38. Et puis on a cette fièvre pendant 3, 4, 5 jours et après ça disparaît. Et pendant cette période de fièvre, on a souvent des signes associés qui sont des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, on peut avoir mal à la tête et on peut avoir une petite toux sèche. Dans 85% des cas, ces signes restent absolument mineurs ou même n'existent pas. Et puis, dans 15% des cas, ces signes sont un peu plus importants et nous amènent à l'hôpital. Et c'est souvent lié à des facteurs de risque qu'on a par ailleurs. Souvent, un poids excessif, de l'hypertension, une maladie pulmonaire sous-jacente, des troubles cardiovasculaires. On commence à bien connaître ça. Et puis l'âge aussi, l'âge joue un rôle important. On a plus de risque d'avoir une maladie sévère quand on a plus de 60 ans, 60, 65 ans, que quand on est beaucoup plus jeune.
Professeur François Dabis, il y a un rendez-vous le 4 mai, conférence des donateurs pour lever des fonds pour la recherche, pour le vaccin, le traitement, à l'initiative de la Commission européenne. C'est encore important comme ça, ce besoin de recueillir des dons. Il faut dire que tous les pays, tous les chercheurs ne partent pas avec les mêmes chances et avec les mêmes moyens.
Vous avez absolument raison. La plupart des pays, notamment d'Afrique, ont des budgets recherche assez limités. Et donc notre solidarité, elle doit bien sûr aussi jouer pour la recherche. Pour l'instant, en ce qui nous concerne en France, on a été le premier pays finalement d'Europe à lancer un programme de financement de la recherche en direction des pays du Sud. Pour l'instant, c'est quelques millions d'euros qu'on a mis immédiatement disponibles. Je suis moi-même en discussion pour que nos ministères de tutelle augmentent cette dotation parce qu'on a une forte demande de la part des chercheurs du Sud à aller vers un financement de la recherche avec des projets que je l'espère certains d'entre eux seront très bons. Donc il est important que ça continue. Il est important aussi quand même que ça se fasse vite. Entendre parler de conférences qui vont discuter du financement pour le début mai ou la mi-mai. Comme je l'ai dit, nous on a ouvert notre appel d'offres le 1er avril et j'espère qu'on rendra nos résultats pour le 1er mai. Il faut aller vite, donc il faut aussi que tout ça s'adapte, mais il faut aussi s'inscrire dans la durée et notamment, bien sûr, vous avez raison, pour la recherche vaccinale. Donc on aura besoin de plusieurs vagues de financement très certainement et de plusieurs vagues de recherche très probablement.
Et le temps passe vite, on arrive déjà à la fin de notre échange. Bien sûr, un point essentiel qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, c'est le vaccin. Je renvoie d'ailleurs à ce sujet les auditeurs de Priorité Santé, les auditeurs de RFI, sur l'entretien que nous avait accordé le professeur Tanguy, que vous connaissez bien, Christophe Denfert, puisqu'il appartient lui aussi à l'Institut Pasteur, sur cette recherche vaccinale. Je vous remercie infiniment pour votre disponibilité, tous les trois, de nous avoir accordé de votre temps et d'avoir bien voulu répondre à toutes nos questions. Merci beaucoup, Karine Lacombe, chef de service des maladies infectieuses et tropicales de l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Merci à vous, Christophe Denfert, directeur scientifique de l'Institut Pasteur, et à vous, professeur François Dabis, directeur de l'ANRS. Notre rendez-vous, relaxation, prendre le temps de souffler, prendre le temps de se poser, c'est ce qu'on vous propose à présent dans Priorité Santé en votre compagnie, docteur Adrien Chaboch, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin et psychothérapeute, alors on le sait, la période peut être stressante, parfois angoissante, et on vous accompagne, vous auditrices, auditeurs, pour prendre soin de vous avec une séance en temps réel. Aujourd'hui, on va essayer de limiter nos compulsions alimentaires. Alors, vous allez nous accompagner. Première chose, pour celles et ceux qui nous écoutent, docteur Chaboch, est-ce qu'on doit s'installer d'une façon particulière ?
Oui, pour aujourd'hui, on va aller visiter ce besoin primaire important, mais qui est aussi une source de plaisir, qui est l'alimentation. Et pour ça, je vous propose d'être bien installé, assis ou allongé, comme toujours, c'est ce qui vous permet d'être le plus confortable chacun, mais de pouvoir poser votre main, la droite ou la gauche, avec la paume vers le ciel, vers le haut, comme si vous pouviez avoir un objet dans la paume de main.
On la pose, ça veut dire peut-être si on est à côté d'une table, sur une table ou sur le lit à côté de nous, c'est ça ?
Voilà, ou même sur votre corps, pourquoi pas, Caroline, vous pouvez poser sur vos jambes, sur votre ventre, si vous êtes allongée, de manière en tout cas à bien ressentir la surface de la main.
Alors on l'entend dans beaucoup de témoignages, hein, surtout pour les personnes qui sont confinées, mais même au-delà, quand les repères changent, on a tendance un petit peu à se réfugier dans les provisions alimentaires. Comment ça se fait justement qu'on passe un petit peu le temps à grignoter, à manger, voire à se goinfrer ?
Eh bien, parce que c'est un besoin primaire, comme on le disait, c'est notre besoin de survie, c'est aussi notre besoin de nous remplir. Manger, ça fait du bien et ça procure du plaisir. Et dans une situation actuelle où nous avons peu de plaisir ou moins de plaisir, d'avoir quelque chose qui est à portée de main et qui va apaiser des tensions, apaiser des inquiétudes rapidement, eh ben on va se diriger plus facilement vers ça. C'est comme un réflexe, évidemment, de manger quelque chose qui est sucré ou salé, qui est juste à portée de main, ben ça nous remplit, ça fait du bien et tout de suite on est calmé. Mais le problème, c'est qu'effectivement ça entraîne d'autres problématiques. Après, on prend du poids, on n'est pas bien, on dérègle notre alimentation et surtout, on se déconnecte de nous-mêmes parce que on ne mange plus vraiment à notre faim. C'est ce qu'on va essayer de retrouver, c'est ce contact en nous-mêmes qui va permettre de réguler, de canaliser ces besoins, ces compulsions qui deviennent parfois très fortes.
Alors, docteur Chaboch, vous êtes notre guide. Je me fais plus discrète, on vous suit, on est à votre écoute, allez-y.
Voilà, Caroline, vous pouvez vous installer comme on l'a précisé, en étant installée assise ou allongée. Une main tournée vers le ciel, vers le haut, et en vous concentrant un tout petit peu, ce serait déjà la première chose qu'on va se dire, c'est que, paradoxalement, ne faites pas d'interdit. Au contraire, tout est autorisé. On va partir de cette base, tout est autorisé, on a le droit de manger tout ce que l'on veut, tout ce que vous souhaitez, il n'y a pas d'interdit. Et ça déjà, ça va nous permettre de respirer un bon coup et de se détendre, de ne pas être dans l'interdit. Et maintenant que vous vous détendez, que vous pensez à toutes ces bonnes choses que l'on aurait envie de manger, que nos papilles réclament, vous pouvez maintenant, en vous détendant, si vous le souhaitez, fermer les yeux ou bien fixer un point devant vous qui vous permettra de tourner votre regard vers votre imaginaire, vers vos pensées. Voilà, exactement, Caroline, c'est très bien. Et maintenant que votre attention se dirige vers vous intérieurement, nous allons faire venir dans cette table où tout est autorisé 5 aliments parmi ceux que vous aimez vraiment bien. Qu'il soit du chaud ou du froid, du sucré ou du salé, du solide ou du liquide, ces 5 aliments-là dont vous savez bien que vous êtes assez attiré. Et vous les laissez venir comme si on s'approchait de la table, on devine à mesure qu'on s'en approche. Ils pourraient être proches de la main, on pourrait les poser dans votre main, l'un après l'autre, à observer la couleur, la forme, du bout des doigts, vous pouvez maintenant sentir la texture par des petits chatouillis dans la main, le poids de chaque aliment qui serait juste au niveau de votre main, bien posé. Vous sentez un peu la lourdeur de chacun de ces 5 aliments qui tournent un petit peu devant vous. Il y a ces couleurs et puis il y en a un, deux. C'est celui que votre corps vraiment a besoin, qui va s'approcher de vos lèvres. Voilà, effleurer les lèvres, passer de l'extérieur à l'intérieur de la bouche. Et vous sentez alors les saveurs qui se diffusent à mesure que on mange, on mâche cet aliment lentement, doucement. Voilà, et tout se fait naturellement, sans qu'on ait à se forcer. Et vous pouvez ressentir maintenant cet aliment qui passe derrière, qui descend le long de la gorge, vers le ventre. L'un de ces aliments, une première bouchée, puis une deuxième, peut-être d'un autre aliment, mais un nouveau goût, et puis un troisième. Et puis même maintenant, on ne sait plus trop si c'est combien de bouchées. Simplement, en revanche, on sent ce qu'il y a dans le ventre. Il y a un espace qui est rempli de cet aliment qui vous fait du bien. Et un espace qui se laisse vide, qui se laisse disponible pour d'autres plaisirs dans la journée. Il n'y a ni trop, ni pas assez maintenant. Et maintenant que vous avez adressé de votre mental à votre ventre un signal, c'est votre ventre qui va vous adresser un signal conscient, qui va vous indiquer que ça va. Il y a ce qu'il faut, vous sentez bien les saveurs, vous sentez ce qu'il y a dans le ventre, tout va bien, il y a juste ce qu'il faut, et vous avez du temps. Alors le signal vous dit, maintenant vous pouvez vous arrêter, c'est suffisant, on peut passer à autre chose. Et naturellement, vous sentirez alors que votre conscience va se porter à autre chose. D'ailleurs, Caroline, certainement, vous êtes déjà en train de penser à d'autres choses maintenant, d'autres images. Voilà, exactement, oui, naturellement, sans forcer. D'autres envies, d'autres pensées vous viennent, et c'est un nouveau repère que vous avez, un nouveau marque-page, comme chaque semaine, un marque-page qui vous permet de mieux vous connaître. Et en prenant ce temps, chaque semaine, chaque repas, chaque jour, si vous le souhaitez, vous pouvez faire cette expérience qui est de manger en pleine conscience, parce que votre corps va naturellement, si vous lui donnez du temps, vous dire ce qu'il faut faire et vous faciliter la tâche pour ne pas avoir à manger trop, juste ce qu'il faut.
Ça veut dire qu'on peut manger par l'imaginaire en dehors des repas.
Voilà, exactement. Et qu'après, une fois que vous serez pendant votre repas, eh bien, votre corps saura gérer, saura vous aider à trouver vos limites naturellement. C'est comme un entraînement. Puis après, ça se fait pendant que vous mangerez.
Et d'ailleurs, quand on visualise ces aliments, on va dire qu'on préfère, on a la salivation qui s'active en même temps.
Exactement. Vous voyez, Caroline, je ne vous l'ai pas suggéré parce que je savais que
j'allais pas vous couper la parole pendant l'exercice, mais je vais vous dire que il y avait mon estomac s'est creusé, puis après, effectivement, il y a eu la sensation de se remplir, mais il y a eu un moment de salivation quand même.
Exactement, c'est pour ça que je savais que ça allait se passer et c'était pour que vous puissiez le découvrir. Vous voyez comme ça marche très facilement pour tous.
Eh bien, on vous remercie beaucoup, docteur Adrien Chaboch, pour ce moment de relaxation, de respiration. On en a vraiment tous besoin. Et bien sûr, vous pouvez retrouver ces séances de relaxation sur la page Facebook de notre émission. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine, un autre moment. On va souffler encore ensemble sous le signe de la détente. En votre compagnie. Très bonne journée à vous.
Bonne journée, Caroline.
Et Priorité Santé touche à sa fin. Merci à toute l'équipe qui, chaque jour, fabrique, réalise votre émission. C'est tous à Machiophilie Lassiane et moi-même, à la maison. Je ne murmure ici pas, mais je le dis quand même. Juliette Brault aussi avec nous, Steven Elsley, Raphaël Lazizi en studio. Et lundi, nous allons répondre à vos questions, toujours nombreuses, à l'occasion de cette nouvelle émission consacrée au coronavirus en Afrique. On va donner la parole aux spécialistes du continent, autorités sanitaires et acteurs de terrain. On se donne rendez-vous lundi. D'ici là, portez-vous bien, lavez-vous bien les mains, c'est essentiel. Et si vous êtes dans une zone de confinement, eh bien, restez chez vous à lundi.
Vous avez suivi Priorité Santé avec le groupe Sounou, qui est à vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous assure de tout son soutien. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.